franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Jean-Paul Dubois.
Bonjour.
Vous revoici avec l'un des romans les plus attendus de la rentrée littéraire, La Succession aux éditions de l'Olivier. Attendu parce qu'au fil des ans et des livres, Kennedy et moi, Une vie française, Vous plaisantez Monsieur Tanner, etc. Des centaines de milliers de lecteurs se sont attachés à votre écriture, à votre univers singulier. Ils seront pas dépaysés, pas cette fois-ci non plus. Vous pensez à eux en écrivant?
Non. Je pense à deux, trois personnes, toujours les mêmes. Je crois qu'on n'écrit pas pour des lecteurs, on écrit pour des personnes qu'on aime, qu'on veut, dont on veut avoir l'estime, parce qu'on peut pas, imaginer que 100 000 ou 200 000 personnes vont apprécier ce que vous faites, mais en revanche, on essaie d'avoir, d'être à peu près certain de toucher les gens qu'on aime et d'avoir leur estime.
Donc vous pensez à des proches, d'abord.
Ouais.
Alors, sur la couverture de La Succession, il y a un homme en suspension, en l'air, avec une chistera, c'est un joueur de pelote basque, puisque le narrateur, prénommé Paul, comme dans la plupart de vos romans, est au départ un joueur de pelote professionnel qui coule des jours heureux à Miami, quand le même jour, il sauve un chien de la noyade lors d'une sortie en bateau, il reçoit un courrier de son père avec la photo de sa voiture, un cabriolet Triumph, dont le compteur est arrêté sur 77 777 miles, et il apprend le suicide de son père, ce qui le conduit à rentrer à Toulouse et à retrouver un univers familial un peu dingue, un peu toxique, qu'il avait fui et qui a une étonnante propension au suicide. Sa propre mère s'était suicidée avec cette voiture, cette Triumph. Le héros va-t-il échapper à cet atavisme ou à cette malédiction familiale? C'est l'un des enjeux de votre récit. Atavisme ou malédiction, d'ailleurs?
La malédiction, j'y crois pas trop parce que je crois que toutes les choses s'expliquent, y compris dans le malheur. Je crois que la difficulté, les difficultés de ces familles-là ont souvent des explications historiques, familiales. C'est les fardeaux, quoi. C'est les fardeaux familiaux. Un fardeau est toujours constitué d'une matière pénible, d'une matière, mais qu'on peut déconstruire. Il n'y a pas de fatalité, je crois. Les fatalités, c'est un mot global pour essayer de d'expliquer ce qui à première vue est inexplicable, mais je crois que toutes les familles ont enfin celle-là en particulier a quelque chose de très lourd à porter, tant du point de vue de l'histoire que de l'affectif.
C'est la famille d'Hemingway qui vous a inspiré?
Non, parce que je connaissais l'histoire
d'Hemingway, dont le père, le frère, la sœur, la petite fille
se sont donné la mère en faisant le livre. Moi, connaissais Hemingway et son père, je connaissais pas le grand-père, je connaissais pas son frère, je connaissais pas sa sœur, je connaissais pas sa petite fille. Et là encore, j'ai essayé de voir si c'était, s'il y avait des travaux qui avaient été faits sur les familles suicidaires. Il y a effectivement des choses qui ont été étudié, et notamment dans le cas d'Hemingway, ils ont découvert qu'il avait un taux de fer très élevé dans le sang, et dont la conséquence est de provoquer des maladies cardiaques, mais aussi des déficiences cérébrales, quoi. C'est-à-dire que vous perdez complètement l'esprit. Est-ce que c'est une maladie qui est transmissible? Est-ce que c'est une lignée qui souffre? Moi, j'aime bien essayer de trouver la cohérence de chaque chose. Je crois pas au destin, au truc comme ça. La pensée magique est un truc bizarre qui me...
Il y a dans vos récits de la cohérence qui pour expliquer des trucs bizarres ou un peu fous ou un peu dingues. Ce qui est bien avec vous, Jean-Paul Dubois, c'est que le making of de vos livres est toujours passionnant parce qu'on voit comment votre travail de grand reporter, votre curiosité de journaliste ou d'ancien journaliste, vos souvenirs de voyage alimentent vos romans. Encore une fois, la plupart des bizarreries, des trucs un peu fous de votre livre, ils ont existé. D'une façon ou d'une autre, ils sont vrais.
Oui, la plupart des choses sont vraies. Mais ça, c'est pas que le journalisme. Le journalisme est un vecteur de la vie, c'est une manière de vivre pendant un certain temps. Mais c'est surtout
curiosité, j'ai dit.
Oui, tout ce qu'on accumule dans une vie, les détails, les souvenirs. J'ai fait plein de livres que j'avais fait déjà il y a 20 ans dans ma tête, sans le savoir. C'est-à-dire, j'avais lu quelque chose, l'histoire du suicide, par exemple, du père qui scotche son visage.
La tête
entourée de scotch. C'est une histoire vraie qui est apparue il y a peut-être 20 ou 25 ans dans le New Yorker, qui faisait toute petite histoire, et c'était fabuleux, parce que c'est encore plus beau au point de vue mise en scène que ce que je raconte dans le livre. C'est un type qui habitait dans un immeuble et qui, pendant trois ans de suite, a vu tomber trois types qui se sont suicidés de l'immeuble d'en face et qui sautaient du même étage. Et il disait, chaque fois que je vais à la fenêtre, je me demande si quelqu'un va sauter. Et le dernier, c'était scotché le visage et les lunettes. Et c'est pas tellement le suicide, mais la seule question qui valait, c'était qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va mourir et qui part avec son rouleau de scotch et qui scotche sa mâchoire et ses lunettes. Pourquoi? Pour voir jusqu'au bout, pour pas crier, pour... C'est un livre, ça part, vous parliez de Making of, mais ça peut partir de quelque chose comme ça qui va réveiller d'autres souvenirs enfouis, d'autres choses tapis dans l'esprit et dans la mémoire.
Le suicide médicalement assisté, vous avez rencontré le docteur de la mort, là, comment s'appelait-il? Voilà, c'est ça.
Jack Kevorkian. Mais ça aussi, enfin, ça, c'est quelque chose d'inoubliable, quoi. La seule chose que j'ai pensé en quittant ce type, je l'ai vu plusieurs fois.
On rappelle, c'est un docteur dans les années 80, hein, c'est ça, aux États-Unis, qui aidait les gens à mourir, mais qui a été condamné pour ça, hein, qui a été poursuivi.
Ça a duré très longtemps. D'abord, la première fois que je l'avais vu, il venait d'aider une dame à mourir dans un camping-car. Parce qu'on l'avait refusé dans les hôtels, on l'avait refusé dans les hôpitaux, on l'avait refusé partout, et il l'avait amené dans un camping-car avec sa famille, avec la machine qu'il avait mis au point. Il lui avait permis de mourir parce qu'elle était en phase terminale. Et c'est un personnage assez singulier. Et quand vous le quittiez, la seule chose que vous aviez à l'esprit, enfin moi que j'avais à l'esprit, il était très pauvre. Il m'avait dit je peux pas vous recevoir chez moi parce que j'ai honte de l'endroit où je vis. Et donc on avait parlé dehors longtemps comme ça à la bibliothèque de Détroit. Et vous le quittiez, vous n'aviez qu'une pensée, c'est le jour où ça va arriver, j'aimerais qu'il habite dans l'immeuble. C'est la chose la plus... la chose qui vous accompagnait quand vous l'aviez quitté. Voilà. C'est-à-dire, ça serait bien qu'il y en ait un comme ça dans l'immeuble.
On découvre aussi au début de votre livre qu'il y a des joueurs professionnels de pelote basque à Miami avec des paris d'argent. Enfin, il y en avait. Maintenant, ça s'est un peu estompé. Et ça aussi, c'est un souvenir de voyage, de reportage en Floride.
Non, c'est pas du tout. C'est le premier voyage que j'ai fait aux États-Unis.
Avant même d'être journaliste.
J'avais 20 ans et je voyageais par une compagnie qui s'appelait la Loft Lady Icelandic, qui était une compagnie à bas, très très bas coût de l'époque, où vous partiez du Luxembourg pour faire une escale aux Açores et arriver à Miami. Et quand je suis sorti de Miami, moi qui ai toujours connu le Pays Basque, je fais quelques kilomètres en sortant, et là vous avez un Rayalay avec des pelotes, des schisteras en façade. Et j'ai découvert à 20 ans qu'il y avait un sport professionnel phénoménal, mais perverti, parce que moi je connais les pelotaries en blanc au Pays Basque avec la tenue traditionnelle, et là vous arrivez là-bas, vous avez l'impression de voir des joueurs de NFL, quoi, avec des casques en plastique, des chemises tout à fait particulières, floquées comme des chevaux de course, avec des enjeux, des hurlements et des gains à chaque point. Donc c'est un autre sport. Mais les bergers basques ont exporté leur jeu à Miami. Donc c'était pas dans le cadre du journalisme, mais c'était dans le cadre de la découverte de ce que pouvait être la vie à l'extérieur du territoire.
C'était un peu avant. En tout cas, vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis. Comme vous êtes à la fois familier des États-Unis et des dingues, des cinglés, est-ce que ça vous fait comprendre mieux que nous le phénomène Donald Trump, Jean-Paul Dubois?
Mais, très sincèrement, je crois que dans le métier que j'ai, la chance de métier que j'ai eu d'exercer au Nouvel Observateur, je n'ai fait que des Donald Trump, à des degrés divers. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, puisque j'étais spécialisé justement dans la narration d'histoire qui était hors actualité, mais singulière, je n'ai rencontré que des types, par exemple des gens qui vendaient la lune, ou vous voyez, des gens qui vous racontent... Vous êtes confronté à des degrés divers, en douceur ou en violence, à des Donald Trump. Donc Donald Trump, pour moi, ce n'est que l'excroissance de tous les gens que j'ai connus là-bas.
Oui, il est hors norme quand même, Trump.
Il est hors norme. Enfin, il y a 4-5 jours, enfin, ça n'a peut-être pour vous aucun rapport, mais moi, ça m'a sauté aux yeux. J'étais sur une plage de l'Atlantique, où je suis souvent, au Pays Basque, et j'ai vu un avion arriver, traînant une banderole comme on en voit pour les trucs publicitaires. Il y avait le visage de François Hollande avec les barrés de rouge, casse-toi, et derrière une banderole énorme avec Hollande démission. Et cet avion a sillonné la plage comme ça pendant.
Ah, ça a recommencé. Voilà. Je savais pas.
Et c'est une trompitude, quoi. C'est un truc. Ça me surprend, quoi, des choses comme ça.
Oui. C'est surprenant, mais sauf que les dingues que vous avez côtoyées ne se retrouvent pas en finale de la présidentielle américaine comme...
Bah, la preuve.
Oui, enfin, jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Ouais.
Oui, oui.
Ouais. Et dans les foules qui soutiennent, qui supportent et qui acclament Donald Trump, vous reconnaissez une partie du peuple américain que vous avez côtoyé lors de vos voyages ou de vos reportages, Jean-Paul Dubois ?
Oui, parce que je pense pas vraiment que ce soit... sont pas des diables, ce sont des gens qui tous les jours voyagent avec des armes, initient leurs enfants à tirer. Ce sont des gens qui ont... C'est un rapport au monde qui est totalement différent. C'est un rapport qui est difficile à comprendre pour nous, mais qui est quasi naturel pour eux. Ils ont une vie et une crainte et une éducation de la violence qui est constitutive. Donc, que des personnages parlent avec autant de brutalité proposent. Oui. La brutalité est inhérente dans le sport, dans les rapports sociaux, dans les arrestations policières. C'est constitutif de ce monde-là.
Jean-Paul Dubois, La Succession aux éditions de l'Olivier.